En juillet 2003 a eu lieu un terrible fait divers qui a eu pas mal d'échos en France. Le chanteur Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir, a frappé à mort sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. Avant cet événement, Bertrand Cantat était un chanteur connu pour être un chanteur engagé, comme on dit, impliqué dans plusieurs causes, dont certaines au moins étaient louables, contre le racisme par exemple, pour la justice sociale. Mais ce drame est survenu, et là on a découvert que celui qui se voulait justicier, eh bien, s'est retrouvé lui-même accusé par la justice, et accusé du pire, accusé de violence extrême et de meurtre. Quand on arrive à ce psaume 7, évidemment, le cadre, à bien des égards, n'a strictement rien à voir. On y trouve David, un homme qui commence à nous être familier. Si vous étiez là les semaines précédentes, on a lu et médité les psaumes précédents. Et c'est David également qui en est l'orateur, qui s'adresse à Dieu, parfois à des gens autour de lui. Alors ce psaume 7, il semble correspondre à la jeunesse de David, peut-être même avant son accession au trône. Au moment où il était encore persécuté, en quelque sorte, par son prédécesseur, le roi Saül. Alors, on a, c'est vrai, une petite indication de contexte au verset 1, mais qui ne nous donne pas tant d'informations que ça, sinon que David répond par ce psaume à un certain Cush le Benjaminite. Alors, ce Cush, il est inconnu au bataillon par ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur lui, sinon rien, mais il semble avoir porté des accusations graves contre David. Et donc, dans ce psaume, David lui répond en quelque sorte, tout en s'adressant à Dieu. Alors, ce qui est intéressant en lisant ce psaume, c'est que c'est comme si, un petit peu si on se retrouvait dans une salle d'audience. Il y a vraiment ce thème de la justice qui est là. On va voir David plaider son innocence, accuser les coupables et faire appel à un juste verdict, à la justice de Dieu. La question que ce texte pose, il me semble, est la suivante. Dans un monde d'injustice, que pouvons-nous attendre de la justice de Dieu ? Dans un monde d'injustice, que pouvons-nous attendre de la justice de Dieu ? Et on va y réfléchir en regardant dans ce psaume trois regards qu'on peut discerner. D'abord un regard sur soi, ensuite un regard sur l'autre, et enfin un regard sur Dieu. Donc on commence par un regard sur soi. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours et peut-être ces deux dernières semaines, les médias comme les réseaux sociaux se sont beaucoup intéressés à la question des agressions et du harcèlement sexuel contre les femmes. Suite à une affaire donc très médiatisée d'un homme de pouvoir abusant de cette position pour harceler des femmes, et malheureusement c'est ni le premier ni le dernier, eh bien les témoignages affluent et on prend conscience, et peut-être particulièrement les hommes prennent conscience, de l'ampleur de ce phénomène. Et comme vous le savez peut-être, un mot-clé est apparu sur Internet pour dire « moi aussi », pour donner aux femmes l'occasion de témoigner et de dire « bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé dans telle ou telle circonstance, etc. » Et pour donner ainsi une indication de l'ampleur du phénomène. Et un peu plus discrètement, en réponse à ce mot-clé « moi aussi », on a vu ici ou là quelques hommes, pas très nombreux, c'est vrai, mais quelques-uns confessaient « j'ai fait cela », reconnaissant des paroles, parfois des gestes inappropriés, voire graves. Un exemple rare donc de lucidité, d'examen de soi. Notre société est très attachée à la notion de justice. Et en fait, si on y pense un petit peu, tous les jours, on dénonce, on défend, on justifie, on condamne, et ce, dans à peu près tous les domaines. Même en parlant de foot, on entend des accusations, des gens qui défendent un tel, c'est assez frappant, c'est vraiment dans tous les domaines. Mais ce qui manque cruellement, en général, lorsqu'on passe un petit peu tout ce qui nous entoure au crible de notre idée de la justice, c'est cet examen de soi, cette lucidité sur sa propre situation et sur ses propres manquements à la justice. Dans ce psaume, psaume 7, il est frappant de voir que David, gravement accusé, va avoir ce réflexe d'un regard sur soi, d'un examen de soi. Alors ça commence par une confession de sa fragilité, de sa vulnérabilité. Il reconnaît la situation dans laquelle il se trouve. Versets 2 et 3, Éternel, mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Donc là, on a vraiment ce cri du cœur, une fois de plus, cet appel à l'aide de David. Et ça fait partie d'un examen de soi. Il reconnaît dans quelle misère il se trouve. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va se livrer à un regard critique sur lui-même. Ou en tout cas, un regard qui sonde ses actions et ses intentions. Verset 4. « Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. » Il n'est pas rare dans les psaumes de voir David et d'autres psalmistes parfois alterner entre plaidoyer pour sa bonne foi et en même temps examen profond de soi. Et il arrive, et on peut penser par exemple au psaume 51, qui est un psaume célèbre de confession, que cet examen de soi auquel se livre David le conduise à, comme pour utiliser le mot traditionnel qu'utilise la Bible, la repentance, à la reconnaissance de sa faute et le changement. Ici, ça ne sera pas le cas, semble-t-il. David va s'estimer innocent des accusations proférées contre lui. Alors soyons clairs, David ne prétend pas être un homme parfait dans l'absolu ou innocent dans l'absolu, sinon il ne prendrait pas le temps de cet examen de soi. Mais il conteste en l'occurrence avoir commis cette faute dont l'accuse cet adversaire. Et donc il va s'appuyer sur la justice de Dieu pour rendre un juste verdict, pour lui donner raison. Verset 9, « L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste. » Toi qui examines les cœurs et les reins, Dieu juste. Alors, toi qui examines les cœurs et les reins, c'est une façon de parler un peu de l'époque. Toi qui vois toutes choses, toi qui nous vois en profondeur. David a confiance dans la justice de Dieu. Sa conscience est tranquille. Et pourquoi est-ce qu'elle est tranquille? Ben justement parce qu'il a fait cet examen de soi en profondeur. Il s'est examiné lui-même à la lumière de ce qu'il sait de Dieu et à la lumière de ce qu'il sait de ce que Dieu approuve et de ce que Dieu n'approuve pas. Alors je voudrais prendre un petit peu de recul pour réfléchir aux implications de cela pour nous. Peut-être une première question que je me pose, que je nous pose, c'est dans cette société où tout va si vite, où on est toujours débordé, est-ce qu'on sait prendre le temps d'un tel examen de soi? Est-ce que régulièrement, je ne sais pas, peut-être une fois par semaine, est-ce que c'est trop ambitieux? Je laisse la question ouverte. Mais est-ce que régulièrement, on met de côté un peu de temps pour tout placer devant Dieu? S'interroger sur nos activités du moment, nos projets, nos priorités, nos attitudes. Ce ne sera pas toujours facile. Parfois, il y aura peut-être des demandes de pardon à adresser à Dieu et peut-être aussi à des personnes autour de nous. Mais combien notre vie spirituelle pourrait changer, je crois? Et s'enraciner toujours plus et grandir si nous faisions cet effort régulier d'un examen de soi à la lumière de la parole. Pas pour s'accabler artificiellement. On voit ici que David, après cet examen de soi, il dit « Ben non, j'ai pas fait ce dont m'accuse Couche le Benjaminite. » Mais pour vraiment faire cet exercice de vérité sur soi. Si j'en crois mon expérience, en tout cas, il arrive parfois qu'on pense être absolument dans son bon droit, dans une situation particulière, mais en y regardant de plus près, et il arrive que les autres nous aident un peu à voir de plus près, eh bien on constate qu'en fait on n'a pas été irréprochable. Et peut-être même qu'on est passé complètement à côté. Je me rappelle une situation il y a de nombreuses années où un ami m'a dit des choses un peu assez dures à entendre sur un défaut qu'il voyait en moi. Et donc il a voulu avoir ce souci de transparence, d'honnêteté avec moi. Et j'avoue que ça m'a blessé, pour être clair. Quelque part c'est quelque chose qu'on m'avait jamais dit avant, cette chose en particulier, et je lui en ai voulu, et je pense qu'il y avait parmi ses propos peut-être certaines choses un peu excessives et en partie injustes, mais je dois dire que cet examen forcé de soi, si ça a fait un peu mal, mais ça m'a conduit à voir qu'en fait il avait quand même au moins en partie raison. Et que ce défaut qu'il mettait en lumière et que j'arrivais sans doute à cacher à la plupart des gens, eh bien je l'avais bel et bien. Et je lui suis reconnaissant aujourd'hui de m'avoir aidé à voir plus clair sur moi-même. Dieu nous appelle à voir clair sur ce qui est bon ou mauvais. Il nous appelle à voir le monde avec un regard façonné par sa parole. Mais si on veut voir clair sur le monde, il faut commencer par voir clair sur soi. C'est Jésus qui le dira bien des siècles après David. « Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Commence par la poutre que tu as là et que tu ne vois pas et ensuite tu pourras éventuellement voir pour la paille de ton frère. Dieu nous appelle à être en phase avec sa justice. Et ça commence par un regard juste posé sur soi. Et c'est ce que fait David dans notre psaume. Mais ensuite, il va poursuivre en posant un regard, là encore à la lumière de la parole de Dieu, sur ceux qui l'entourent, sur leurs paroles et sur leurs actes. C'est notre deuxième point, un regard sur l'autre. Il y a quelques semaines, je vais encore parler des médias, nos médias ont célébré, c'est vraiment le mot malheureusement, la mémoire du fondateur du magazine Playboy, Hugh Hefner, qui venait de disparaître. On s'arrête un instant pour quand même considérer l'ironie de cette société qui, une semaine, va célébrer la pornographie et celle d'après, dénoncer les attitudes malsaines et les agressions contre les femmes. Mais dans l'incroyable concert d'éloges auquel a eu droit ce monsieur, un éditorialiste d'un grand journal outre-Atlantique a fait entendre une voix différente. Un journal pourtant pas particulièrement traditionnaliste. Mais il a dénoncé dans des termes très forts le terrible héritage de Hefner et sa contribution à la perte des repères de notre société. Et je lis un tout petit extrait de cet article, de cet éditorial. Voici ce qu'il écrit. « Tout ce qu'il a rendu influent et important était pourri, et dans la mesure où ces choses ont été célébrées, elles ont mis en lumière une pourriture bien plus large qui nous concerne tous. » C'est rare de voir les médias s'exprimer aussi violemment, et plus encore lorsqu'il s'agit d'une personne qui vient de décéder. En général, il est de bon ton de se concentrer sur les choses positives. Mais là, c'est comme si ce journaliste se disait « Non, mais là, il faut dire la vérité. » Et c'est ce que je me suis dit en lisant cet article. Il fallait le dire. Il fallait dire la vérité plutôt que de tomber dans ce marasme par lequel on appelle le bien mal et le mal bien. Dans le psaume 7, David, après s'être remis en question, comme on l'a vu, eh bien, il ne mâche pas ses mots. Alors qu'il a été calomnié par son adversaire, David, si j'ose dire, sort l'artillerie lourde. Verset 7, « Lève-toi, Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. » C'est fort quand même, comme parole. Bizarrement, nous avons souvent du mal avec ce type de parole biblique dans notre société un peu aseptisée, j'y reviendrai. Il arrive aussi qu'on caricature ou qu'on comprenne mal l'enseignement biblique. On entend l'appel de Jésus à aimer nos ennemis ou à ne pas juger de peur d'être jugé. Et on croit que cela veut dire qu'il faut avoir une sorte de neutralité ou de bienveillance passive face au mal que nous voyons autour de nous. Mais pas du tout. Jésus a aimé ses ennemis au point de mourir sur la croix pour eux, ses ennemis que nous étions. Et pourtant, ça ne l'a jamais empêché d'être clair sur le mal, de dénoncer dans des termes parfois extrêmement forts le mal, de façon très franche. Dieu ne supporte pas le mal. Il offre aux pécheurs son pardon, mais jamais il n'est complaisant avec le mal. Et on voit ça d'ailleurs au verset 13 de notre texte. On voit ces deux réalités, le pardon oui, mais la reconnaissance du mal tel qu'il est. Si le méchant ne revient pas à lui, à Dieu, il aiguise son épée, donc il, Dieu, aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Donc le méchant a l'occasion de revenir à Dieu, mais s'il ne le fait pas, ça ne va pas être sans conséquence. Et là encore, le langage est fort. Mais ce qui motive David, ce n'est pas en dernier recours de voir les méchants souffrir, histoire de les voir souffrir, mais c'est plutôt ce brûlant désir en lui de voir la justice de Dieu prévaloir sur la justice des hommes, sur l'injustice pardon, des hommes. Il y a quelques jours, je marchais en tenant par la main ma fille de 4 ans, et un jogger a croisé notre chemin. Et parce que ma fille a eu le malheur de ne pas s'écarter convenablement pour laisser monsieur passer, il l'a bousculée et insultée. Ma fille de 4 ans. qui a fondu en larmes, qui ne voulait pas sortir ensuite, plus tard dans l'après-midi, etc. Alors, on ne parle pas là de génocide, de crime contre l'humanité, on est d'accord. Mais lorsque c'est arrivé, j'ai été rempli d'une profonde indignation, je dois dire. Une profonde indignation. Alors, est-ce que ma réaction en tant que chrétien, ça devrait être de dire « Mais non, il faut que je sois gentil, il faut que je sois tolérant, c'est pas si grave. » Ou est-ce que dans une logique athée, ce qui s'est passé finalement c'est un pur aléa, sans aucune réalité morale, au fond, c'est juste une rencontre un peu désagréable entre mammifères évolués, point barre. C'est ça, là, si on est logique et cohérent avec l'athéisme, je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre que ça. Mais je ne pense pas. Et je pense que si nous sommes indignés face au mal, ben c'est parce que nous sentons bien que le mal transgresse des lois qui nous précèdent et nous dépassent. Et en posant son regard sur les autres, et notamment sur ses accusateurs, David ne mâche pas ses mots. Il s'indigne. Mais dans son indignation, il y a trois choses importantes à noter, qui sont, je pense, importantes pour nous de mettre en pratique aussi. La première, on l'a déjà vu, c'est que David se place lui aussi sous la même loi. Il s'estime concerné par le problème du mal. Et on le voit lorsqu'il mène cet examen de soi. La deuxième chose, c'est que David ne cherche pas à rétablir lui-même la justice, mais il s'appuie sur celle de Dieu. Verset 2, verset 7, verset 9, verset 10. Toujours cette idée. David fait appel à cette justice qui le dépasse. C'est ça que ça veut dire bibliquement ne pas juger. Ça ne veut pas dire ne pas dénoncer. Ça ne veut pas dire ne pas s'indigner. Mais ça veut dire laisser à Dieu le jugement, le verdict, l'autorité pour condamner ou innocenter. Ça, c'est le domaine de Dieu. Et là, je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire voir notre différence. Plutôt que de sans cesse chercher à nous défendre, à nous venger, à nous faire bien voir, à nous justifier, eh bien, nous sommes appelés à nous tourner humblement vers une justice qui nous dépasse. Une autorité qu'en fait, tous les hommes, tous les gens pressentent confusément, mais que nous connaissons personnellement en Jésus-Christ. Troisième chose à noter, c'est que David ne s'arrête pas à sa colère, il voit plus loin. Il voit au-delà de la colère du moment. Et on en a un petit indice discret au verset 8. « Que l'assemblée des peuples vienne t'entourer, revient dominer sur elle dans les hauteurs. » David est en colère contre le mal commis par les hommes autour de lui, mais il ne perd pas de vue une espérance pour l'humanité. Celle de voir les peuples à nouveau soumis à Dieu, réconciliés avec lui. Alors cet homme qui a insulté ma fille, j'y reviens. Est-ce que je dois faire, ça me travaille un peu, c'est vrai. Est-ce que je dois faire comme si de rien n'était et ne pas me mettre en colère? Non, bien sûr que non. Je pense qu'en l'occurrence, ma colère était justifiée. Mais en tant que chrétien, je dois pouvoir voir plus loin que cela. C'est pas facile. Voir quand même en lui mon prochain, un pécheur qui a besoin de Dieu et de sa grâce, comme moi j'ai besoin de Dieu et de sa grâce chaque jour. Et c'est tout naturellement qu'on en arrive au troisième et dernier point, un regard sur Dieu. Malgré tous les problèmes que la France connaît, il y en a plein, je pense qu'il est juste quand même de dire que globalement, nous vivons dans un état de droit. C'est-à-dire un pays où on ne peut pas juste faire tout ce qu'on veut simplement parce qu'on le veut, où il y a quand même des contre-pouvoirs, où il y a quand même des conséquences, et où tout le monde est quand même, d'une certaine façon, concerné par la justice. Dans bien des pays du monde, on sait que la situation est tout autre avec la corruption. Un homme de pouvoir peut passer un simple coup de fil, ou simplement décréter une loi qui l'arrange, et du coup faire passer l'éponge sur les pires méfaits. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une certaine confiance dans la justice, dans notre pays par exemple? C'est le fait de savoir qu'elle s'impose à tous. Alors oui, je sais, cela n'est vrai que partiellement et imparfaitement. Mais imaginez ce que ça serait si chacun pouvait choisir sa propre justice. Chacun pouvait décider quelle loi il allait appliquer à lui-même ou pas. Mais en fait, dans l'absolu, s'il n'y a pas de Dieu juste, c'est la situation de l'humanité en termes de morale, en termes de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Et on a eu l'occasion plusieurs fois de réfléchir à cela ici même. Dire qu'il y a un bien et un mal qui s'impose à tous n'a aucun sens, s'il n'y a pas une autorité qui s'impose à tous les hommes. J'étais choqué, j'y reviens, par les paroles brutales d'un homme à l'égard de ma fille. Mais si, quelque part, une culture, une société décidait que les hommes peuvent insulter les enfants, et que, après tout, c'est leur droit, au nom de quoi est-ce que je vais pouvoir contester cela? Une convention humaine ici, une convention humaine là. Alors certains me diront que ça devient un petit peu philosophique, mais je souligne cela à la lumière du psaume 7, parce que David en appelle à la justice de Dieu dans l'injustice qu'il vit. Il sait que c'est parole contre parole. Si Couche le Benjaminite veut trouver des alliés et faire accuser faussement David, il peut le faire. Surtout s'il est dans la cour du roi Saül, comme certains le pensent. Mais David fait appel à un Dieu qui est le maître de la justice, verset 7. « Réveille-toi pour me secourir, toi qui établis le droit. » Et quoi qu'on veuille nous faire croire, si ce jugement de Dieu n'existait pas, alors en fait il n'y aurait que des choix humains différents et aléatoires. Alors notre soif de justice ne serait jamais réellement satisfaite et la justice ne serait que celle des puissants. Et c'est pour ça que David aspire à la justice. Il aspire au jugement de Dieu. Et il est convaincu que cela se fera. Immédiatement ou à l'avenir, versets 11 et 12. « Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. » Puis un peu plus loin au verset 15, « Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère et il accouche de la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. » David est convaincu que les actes des hommes ont des conséquences et auront des conséquences. Un jour, chacun devra rendre des comptes devant notre Créateur, devant Dieu. Et pour David, c'est pas quelque chose qui le dérange intellectuellement ou moralement, mais au contraire, c'est quelque chose qui l'encourage. C'est quelque chose auquel il aspire. Il faut reconnaître que dans nos sociétés occidentales, nous avons du mal avec cette idée du jugement de Dieu. Allez parler aux gens dans la rue, « Qu'est-ce que vous en pensez du jugement de Dieu ?» Vous verrez la réaction. C'est vraiment pas dans l'air du temps. Si on croit en Dieu, on préfère un Dieu coach qui se contente d'encourager, de booster, d'aider, de consoler, mais jamais de punir et jamais de juger. Dieu n'aurait-il pas le droit d'être en colère et pas le droit de juger? À ce sujet, je lirai ces quelques lignes d'un théologien croate, Miroslav Volf. Situation un tout petit peu dure à entendre, mais qui me paraît importante, et on va la voir sur la diapo. C'est écrit en petit, désolé. L'idée de la vengeance divine déplaît à bon nombre de chrétiens, en particulier aux théologiens occidentaux. À ceux-ci, qui souhaitent se débarrasser d'une telle notion, je suggère d'aller donner cours dans une zone de guerre. Parmi vos auditeurs sont des gens dont les villes et les villages ont été pillés, brûlés et rasés, dont les filles et les sœurs ont été violées, dont les pères et les frères ont été égorgés. Le thème de votre cours ? L'amour parfaitement tolérant de Dieu qui n'impose rien à personne. Vous découvrirez rapidement qu'il faut la quiétude d'un pavillon de banlieue pour donner naissance à l'idée que Dieu refuse de juger. Oui, nous pouvons nous réjouir du jugement qui vient. Mais nous ne pourrons vraiment nous en réjouir du fond de notre cœur que si nous-mêmes avons compris que nous méritions en fait ce jugement. Que nous aussi, nous sommes coupables devant Dieu. Et que si nous-mêmes nous tournons vers Dieu en Jésus-Christ son Fils, pour obtenir son pardon, pour trouver son pardon, qu'il nous offre librement et gratuitement. Donc face à l'injustice de ce monde, à laquelle nous participons nous-mêmes si souvent, commençons par poser ce regard lucide sur nous-mêmes, puis ce regard lucide sur l'autre. Et comme David à la fin de ce psaume, posons ce regard sur Dieu et réjouissons-nous, parce que notre Dieu est juste. Et parce qu'il est souverain, nous savons que c'est sa justice qui, en définitive, aura le dernier mot. Amen.